Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Dans le contexte actuel, le numérique en France se place en tête des Eldorado capables de contribuer à relancer la croissance et à créer des emplois. Pourtant, un obstacle surgit. Les progrès de la technologie ont conduit au développement des connexions à très haut débit, de l'ordre de 100 Mbps par seconde, et la fibre optique revient en force. Mais la mise en œuvre de ce nouveau vecteur des autoroutes de l'information impose des investissements considérables, de 20 à 40 milliards d'euros pour couvrir le territoire français. Or, le temps n'est plus où l'État pouvait prendre en charge le coût de telles infrastructures nationales. Désormais, c'est à l'industrie privée que revient cette tâche, et qui dit privé dit rentabilité. Si cette rentabilité ne pose guère de problème en région parisienne, il en va autrement dans le Morvan, la Lozère ou le Cantal. Et l'État se retrouve ainsi confronté au risque d'une nouvelle fracture numérique, celle du très haut débit. Comment éviter cette fracture? À quel prix et avec quels acteurs économiques? Quels sont les enjeux véritables du très haut débit ou encore des techniques d'information et de communication? Tout le monde en a-t-il besoin et pourquoi faire? C'est le moment d'entamer une réflexion sur notre développement technologique face à notre responsabilité de développement durable. Et cela implique dans un premier temps d'établir un bilan, un état des lieux pour être à même d'évaluer la situation. Cette évaluation doit nous permettre d'apprécier si les actions mises en œuvre respectent à la fois l'intégrité environnementale, l'équité sociale et le développement économique. Ainsi, la qualité de cette évaluation est directement liée à la pertinence des indicateurs choisis. Les sujets proposés dans le biotope d'aujourd'hui sont tous en lien avec le développement des technologies de l'information et de la communication. L'objectif est d'ouvrir la réflexion sur une analyse selon les principes de développement durable pour préciser, approfondir, voire même démystifier certains sujets. L'intérêt n'est pas de souligner les avantages et inconvénients, mais de porter un regard différent, plus global et plus large. C'est avec Stéphane Clausonnier, entrepreneur de la SCOP Oxalis. Et à travers cette entreprise, il est consultant, il forme, il assiste aux techniques de l'information et de la communication. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous, dans le domaine des techniques de l'information et de la communication, vous ne sentez pas de danger? Ce sont des techniques qui sont encore à l'heure actuelle à l'abri de la crise?
Alors, en termes économiques... Je ne sais pas si elles sont à l'abri de la crise, mais les technologies de l'information et de la communication sont un secteur économique encore en pleine croissance, malgré la conjoncture actuelle, porteur de plein d'espoir, effectivement, de rentabilité économique. Ça se chiffre à l'ordre mondial en termes de milliards, de milliards, de milliards de dollars qui sont investis et qui reviennent chaque année dans les entreprises qui investissent. Donc oui, c'est un secteur porteur encore sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Oui.
Quels sont les catalyseurs qui vous ont permis de prendre conscience qu'il était possible d'avoir un autre point de vue sur le développement de ces techniques d'information et de communication?
C'est avant tout une histoire personnelle en fait. Ça fait 20 ans que je suis consultant dans les métiers de l'informatique et consultant à l'international pour des grands groupes. Donc j'ai pu travailler dans le domaine du pétrole, de l'aérospatial, de l'automobile, du nucléaire. Et outre le plaisir des voyages, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je nourrissais une insatisfaction dans les interventions que je faisais. Une insatisfaction d'un point de vue, on va dire, résultat obtenu auprès des entreprises pour lesquelles j'intervenais, où il me semblait que on se contentait de développer de la technologie sans en regarder finalement quelle en était la performance au final. Donc ça a été une insatisfaction plutôt professionnelle et une insatisfaction personnelle où mes interventions s'inscrivaient sur des territoires où j'avais une place rêvée en fait. Voilà, j'étais un étranger qui travaillait pour un grand groupe avec une certaine donc aisance financière par rapport à certains pays qui pouvaient être le Mexique par exemple. Et ma situation me faisait ressentir d'être un peu quelque chose d'artificiel au milieu de ces gens qui, eux, avaient des problèmes au quotidien bien plus graves à gérer que les miens. Et donc, voilà, de ces deux insatisfactions, en fait, et de tout un parcours de vie derrière, j'en suis arrivé à me poser certaines questions pour savoir comment on pouvait faire mieux, comment on pouvait arriver à une vraie valeur ajoutée en prenant en compte le tissu social et économique et environnemental dans lequel s'inscrivaient ces projets.
Ce qui donne donc naissance à votre entreprise ?
Alors, ce qui donne naissance d'abord à une phase cachée de mon activité qui a été toute la phase de recherche et de construction d'une méthodologie de travail, puisque vouloir faire les choses différemment, c'est bien de le dire, de le vouloir, c'est bien, mais faut-il encore avoir quelque chose de tangible à proposer? Donc j'ai, à partir de ces insatisfactions et de la prise en compte des principes de développement durable, j'ai développé une méthodologie pragmatique, opérationnelle, qui me permet aujourd'hui d'intervenir pour proposer un mieux dans le développement de ces projets de technologie auprès des organisations auprès desquelles j'interviens, hein, que ce soit des entreprises ou des collectivités territoriales, pour qu'au final on puisse viser ce que j'appelle une performance globale, c'est-à-dire ben, effectivement une rentabilité économique, qui est une contrainte aujourd'hui incontournable, un respect de l'équilibre environnemental, et surtout, pour moi, ce qui aujourd'hui fait le grand absent de ce débat, un équilibre dans la prise en compte de la dimension sociale. Donc il a fallu chercher un peu, quelque part, là, comment évaluer cette rentabilité lorsqu'on investit en informatique, en télécommunication. Est-ce que c'est une fatalité que de devoir déverser de l'argent régulièrement uniquement pour se tenir à jour des nouvelles performances ? D'un point de vue environnemental, le discours s'est notamment porté par les démarches de Green IT. Aujourd'hui, ce discours est quelque chose d'assez visible dans ce que peuvent avoir les technologies de l'information et de la communication comme prédateurs en termes d'énergie, de ressources naturelles, en termes d'occupation de l'espace, des choses comme ça. Mais là où effectivement il a fallu chercher un peu plus loin, dans la dimension sociale, j'ai trouvé des réponses près de sociologues comme Philippe Bernou ou Dominique Volton qui m'ont permis de prendre conscience de la situation du problème, qui n'était pas non pas de vouloir forcément, comme on le répète de manière un peu mécanique, mettre l'humain au centre de n'importe quoi, mais de penser l'humain avant tout et de penser pour l'humain au final.
L'outil étant au point, on se sent confiant sur les premières rencontres avec les clients, avec ses premiers clients.
Alors mes premiers clients, oui, je me suis senti en confiance. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de trouver dans mes premiers clients une écoute tout à fait favorable. J'ai eu l'occasion de travailler, alors que je me destine particulièrement aux entreprises, beaucoup de collectivités territoriales ont été intéressées par ma démarche, pour deux raisons que j'ai identifiées. L'une et que nos collectivités territoriales de la vallée de la Drôme sont très impliquées aujourd'hui dans le développement durable, et le projet BioVallée en est, on va dire, l'indicateur le plus notable. Et le deuxième point est qu'aujourd'hui, ces contraintes de développement durable sont inscrites dans le code des marchés publics, et que toute collectivité territoriale qui aujourd'hui s'inscrit dans une démarche de marché public se doit d'introduire des clauses sociales et environnementales dans ces appels d'offres. Donc en fait, ces collectivités territoriales trouvent dans mon activité une réponse à cette envie de leur part de s'inscrire dans une démarche de développement durable et dans cette contrainte d'avoir à gérer de manière administrative cette évaluation du développement durable. Et donc j'ai eu des collectivités territoriales très favorables à mon activité et pour lequel j'ai pu valider que les objectifs pouvaient être atteints.
Est-ce qu'il y a une différence notable justement entre une collectivité territoriale et puis une entreprise classique ?
Alors, il y a une différence, je ne sais pas si elle est notable, mais il y a une différence dans ce que l'on attend notamment des technologies de l'information et de la communication. Le point commun pourrait être résumé en une expression qui est « système d'information ». Un système d'information, c'est un ensemble de procédés, de moyens humains et matériels en informatique, télécom et audiovisuel qui permettent aux organisations, entreprises ou collectivités territoriales de collecter, stocker, traiter et transmettre de l'information. Ça, c'est un point commun. Ce système d'information, c'est-à-dire ces systèmes informatisés à base de télécommunications et d'audiovisuel, aujourd'hui, peuvent faire l'objet d'une évaluation de développement durable en vue d'un objectif de performance globale. Typiquement, les entreprises aujourd'hui sont essentiellement focalisées sur cet aspect-là. Comment les outils qu'elles utilisent pour travailler peuvent s'inscrire en termes de performance globale. Une collectivité territoriale, même si elle intègre cette difficulté, elle en a une seconde qui consiste à savoir comment les outils qu'elle met à disposition de ses usagers, des citoyens, des entreprises qu'elle a en location dans ses, ou des associations qui sont en location dans ces bâtiments, peuvent utiliser ces systèmes-là dans une démarche de développement durable. Alors pour donner un exemple le plus prégnant, la communauté de communes du Val de Drôme, lorsqu'elle s'est lancée dans ce projet de campus, a commencé à penser un bâtiment en termes de bâtiment bioclimatique, de performance thermique et énergétique élevée, et en termes d'équipement informatique et de télécommunication. Et très vite, elle s'est rendue compte que obtenir un bâtiment avec une efficacité énergétique, donc un bâtiment étanche à l'air, et un bâtiment traversé de part en part par tout un tas de fils nécessaires pour l'informatique et les télécommunications ne sont pas des choses aisées. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant d'intervenir et puis de trouver des solutions qui permettent de conserver la performance énergétique du bâtiment, de ne pas dénaturer les enjeux premiers du bâtiment, et pour autant de mettre à disposition l'ensemble des équipements pour lesquels ce bâtiment était prévu. Mon premier point d'entrée sont les utilisateurs. Les personnes que l'on retrouve derrière les écrans, ceux qui vont au quotidien en fait se servir de ces systèmes que l'on va installer pour arriver avec eux à construire une évaluation de ce qu'ils vivent au quotidien dans leur travail et comment eux perçoivent ces outils. Parce qu'il est fondamental de garder à l'esprit que tout projet informatique, tout projet de télécommunication, sa réussite dépend de l'utilisateur final. La meilleure des conceptions qui soit, la meilleure gestion de projet qui soit, la meilleure performance technique qui soit, ne vous assurera jamais la réussite d'un projet si au final l'utilisateur n'est pas prêt à l'utiliser, n'a pas été formé à l'utiliser et ne ressent pas le besoin d'utiliser ce que vous mettez à sa disposition. Donc l'utilisateur final pour moi est le point d'entrée, donc je vous disais la dimension sociale. Commencez par là, commencez par poser les questions à l'utilisateur pour savoir comment lui, au quotidien, vit l'utilisation de ses outils et en quoi ces outils peuvent lui aider ou le contraignent dans la tâche qui lui est assignée.
L'étape suivante, alors, c'est quoi ?
L'étape suivante, après, c'est de construire ensemble. Et ensemble est un mot et pas un vain mot. Je me dis que chaque solution est singulière, chaque solution appelle une solution particulière parce que le contexte économique, le contexte environnemental et le contexte social de l'organisation pour laquelle j'interviens est forcément différent d'une organisation à une autre. Donc, ma démarche consiste à co-construire une solution, c'est-à-dire à travailler en groupe avec des utilisateurs, avec des responsables administratifs, avec des responsables des dirigeants des organisations, pour qu'ensemble on arrive à construire une solution qui soit cohérente et qui corresponde à l'ensemble des besoins de chaque acteur de l'organisation et qui soit pas uniquement une vue un peu utopiste, on va dire, vue de la direction, qui me dirait, je veux quelque chose qui me permette d'obtenir tel résultat, mais qui soit décorrélé de la difficulté au quotidien des utilisateurs. Donc c'est d'intégrer tout ça dans des sessions de travail de groupe où on discute ensemble, où on échange et où on se rend compte que c'est quelque chose d'assez positif puisque c'est un espace-temps qui est ouvert où soudain on peut parler de choses que l'on ne parle jamais. Entre un dirigeant et un opérateur derrière son écran dans une entreprise ou une collectivité territoriale, on va parler organisation, comment, enfin, temps de travail peut-être, on va parler procédure. Mais soudain, est-ce que je suis bien installé sur ma table avec mon écran? Est-ce que je pense que cet outil-là est bien le plus adapté pour moi pour faire ce qu'on me demande? Ce n'est pas des questions qu'on aborde tous les jours. Et les langues se délient, on s'aperçoit que finalement, la solution se construit comme ça, petit à petit.
Le revers de votre intervention, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, j'imagine?
Pas forcément, ça demande une grande disponibilité, peut-être sur un temps très court, effectivement, ça va demander une forte disponibilité. Après, on arrive toujours à trouver une articulation qui perturbe le moins possible les organisations. Mais oui, plus une grande disponibilité, et si tout le monde joue le jeu, si l'écoute est là, si la communication se passe bien, on va dire que ça prendra quelques heures de plus par rapport à un projet, mais pour un résultat au final qui soit beaucoup plus performant. You wanna protect me? Just come in my home, everything is free. Some guy upstairs gives you the sheriff star for the control of me. They got a boulevard. Come on, chief, do the police. Some guys upstairs told you I'm a Z, but I'm not alone and we win for you. We hit this whip in your face, what else can we do? Je suis écœuré par le pouvoir, les lois, cette répression qui rôde autour de nous presque à chaque acte, mais sous tension. La liberté n'est plus qu'une imagerie de conte pour enfants. La propagande flash les cerveaux par le biais d'un petit écran. La mode est à la surenchère de l'asservissement, à finir en mouton et esclave au teint jaunissant. Du boulet au boulot, les taux se serrent, le but d'aller plus haut. Plutôt pas se faire emmerder par le con qui trempe dans son château. Voici ma joie de vivre où tout devient possible. À coup de populisme, la bergerie courbe les chines. L'extrémiste passe en revue ses troupes blasées et passéistes. La vidité trône dans la trogne des lueurs. Protect me, just come in my home, everything is free. Some guy upstairs gives you the sheriff star for the country.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Vous commencez à avoir suffisamment de recul pour justement observer si vos conseils ont été de bons conseils et voir la valeur ajoutée que ça a apporté à ses clients.
Alors oui, je commence à avoir, heureusement, du recul sur cette action. J'ai aujourd'hui, on va dire, j'ai un recul, alors il est pas énorme, hein, mais j'ai 3 ans aujourd'hui de retour d'activité, de retour d'expérience, sur des projets, sur beaucoup de projets sur un territoire Ardèche-Drôme. Et effectivement, aujourd'hui, tous ces retours d'expérience sont plutôt positifs, dans le sens où... je remplis à chaque fois ce que je me suis fixé comme une contrainte incontournable, la rentabilité économique des projets dans lesquels je m'inscris. Pour différentes raisons qui sont liées essentiellement à la manière dont nos outils informatiques et de télécommunication se sont insérés en fait dans notre organisation et dans les organisations des entreprises et des collectivités territoriales. On arrive à obtenir aujourd'hui des gains en termes financiers entre 30 et 50% sans perdre en performance technique, même bien souvent en permettant une valeur ajoutée en termes de fonctionnalité et surtout en améliorant la perception de la part des opérateurs, de la part des utilisateurs, de la performance des outils qu'ils utilisent. Et le tout faisant, on atteint effectivement cette notion de performance globale. Donc aujourd'hui, on va dire, en fonction effectivement de l'ampleur du projet, en fonction de la taille de l'entreprise ou de la collectivité pour laquelle j'interviens, on va dire un retour moyen sur 30% d'économie financière, une amélioration de l'impact environnemental en faisant peut-être un peu différemment certaines choses, en repensant certaines fonctionnalités, et surtout avec un travail de communication auprès des utilisateurs, de formation, de prise de conscience de la part des utilisateurs qui n'ont pas forcément la vision globale suffisante pour se dire qu'effectivement certaines de leurs pratiques sont même pas en accord d'ailleurs avec leur propre pratique personnelle, mais voilà, le lien n'était pas fait, et le fait de remettre en phase ces différentes pratiques permet de faire avancer les mentalités, permet de faire avancer la productivité et permet de faire avancer la performance.
Si on vous demande d'intervenir dans un coin très très reculé, au fin fond d'une vallée, est-ce qu'il y a plus de difficultés à développer ce genre de projet ? Pourquoi ?
Alors, il est clair que mon activité aujourd'hui est rendue possible par le déploiement, effectivement, en partie, d'un réseau très haut débit sur la vallée de la Drôme, mais de manière plus globale en Ardèche-Drôme, et encore plus globale sur tout le territoire français. Pour autant, on n'a pas attendu le déploiement de la fibre optique et du très haut débit pour avoir un essor de nos outils informatiques et de télécommunications. Donc de toute façon, tout projet portant sur un équipement dans le domaine de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel peut être soumise à cette évaluation de performance globale, et donc je peux apporter une valeur ajoutée dans le domaine. Tout est une histoire de curseur, à savoir jusqu'où on veut placer effectivement la performance technique. Demander à une vallée reculée qui ne serait pas équipée aujourd'hui de réseaux très haut débit, de vouloir accéder à des services en lien avec ce réseau-là, peut entraîner des conséquences économiques notamment très lourdes, qui peuvent remettre effectivement le projet en cause. Mais pour autant, il est intéressant de se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment le besoin. Donc un des points d'entrée de ma méthode de travail est aussi d'évaluer le besoin. Est-ce que ce que l'on s'est donné comme objectif est quelque chose de cohérent avec la mission que l'on se fixe au quotidien ? Quel est le besoin ?
D'autres difficultés peut-être que vous avez pu rencontrer à développer ce projet ?
Alors, une difficulté, elle est d'ordre culturel. Elle est d'ordre culturel parce qu'aujourd'hui, même si les résultats sont là, même si des retours d'expérience sont visibles pour montrer que non seulement c'est réalisable, mais en plus que les résultats attendus sont présents, il y a un aspect culturel dans ce que je vais appeler le monde des techniciens. Alors ça n'a rien de péjoratif ni de restrictif. La culture technicienne est une, et j'en suis issu, hein, puisque j'ai passé des années d'études pour arriver à être diplômé dans le domaine, nous pousse à penser en termes d'aller au mieux dans ce qui se fait de techniquement possible, sans jamais se poser la question de savoir est-ce que vraiment on en a besoin et qu'est-ce que ça nous apporte en termes de performance économique, performance environnementale ou sociale. Donc d'arriver avec un discours en disant « me parlez pas de technique, mais parlez-moi d'humain » à quelqu'un qui effectivement passe sa journée à confronter à des problèmes techniques, demande une certaine adaptation de la part de chacun pour arriver à se comprendre. Alors je comprends qu'effectivement quand on est le directeur d'un service informatique ou quand on est responsable technique d'une organisation et qu'on doit gérer au quotidien des problèmes de technique, hein, puisque ça se résume des fois malheureusement à ça, il est très difficile d'entendre le discours en disant qu'on réglera ces problèmes techniques en se focalisant d'abord sur la préoccupation humaine. Mais bon. Petit à petit, chemin faisant, j'arrive à être de plus en plus entendu.
Vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que la démarche engagée par BioVallée autour du développement durable était quelque chose de relativement porteur pour votre activité, directement ou indirectement, au développement de votre entreprise.
Alors, pour être très honnête, le mot BioVallée, aujourd'hui, a le mérite de résonner aux oreilles de beaucoup de décideurs. C'est quelque chose qui est connu, alors peut-être pas, tout le monde ne connaît peut-être pas tous les détails du projet, mais ce terme-là parle, et surtout derrière, effectivement, l'expression développement durable est en lien direct. Donc effectivement, pour mon activité de pouvoir de présenter un retour d'expérience sur des projets qui se sont ancrés sur le territoire de la Biovallée et porteurs dans l'image, sur cette image de marque développement durable que je veux véhiculer. Sur les autres, on va dire que sur les autres avantages d'être inscrit dans la Biovallée, c'est d'être au cœur d'une dynamique de développement durable qui permet de rencontrer des acteurs dans des domaines divers et variés et de s'enrichir et de se nourrir de ces expériences-là et surtout d'aller piocher, d'aller piocher certains trucs, certaines astuces qui ont fonctionné dans des entreprises, dans des démarches collectives, pour arriver à améliorer encore ma méthodologie de travail, à perfectionner certaines choses pour être en amélioration continue.
Merci Stéphane Clausonnier.
Merci.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.